le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre surprenant parce que on y trouve plutôt ce que la première Église vivait, c'est-à-dire toutes sortes de miracles, des réveils, et une prédication inspirée, des temps formidables, de louanges également. Mais il y a un enseignement pour nous parce que c'est le modèle de l'Église tel que Dieu la veut. Vous savez, il y a des modèles d'Église qui ressemblent à ce que peut-être une équipe pastorale a voulu, à ce que, voilà, il y a eu une réflexion, voilà. Mais je crois qu'il est important également de rencontrer ce que Dieu veut pour nos vies, alléluia, également ce que Dieu veut pour l'Église. Et ici, nous allons donc dans Actes au chapitre 16 et au verset 16e. Et nous lisons ceci, Actes 16, verset 16, il nous est dit « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, peut-être un peu exaspéré, ça vous arrive jamais, ça ? Voilà. Eh bien, il se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Bon, c'est-à-dire que Paul, il n'avait pas envie que ce soit des démons qui lui fassent de la publicité. Et ça aurait amené une certaine confusion dans l'esprit de celles et ceux qui étaient autour d'eux. Non, non, non. On sépare les ténèbres et la lumière. Alléluia. Amen. Et puis en même temps, cette femme a été délivrée. Et les maîtres de la servante, eh bien, voyant disparaître, parce que voilà, ce démon est sorti à l'heure même, et donc les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leurs gains, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges, et après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous sommes face à un texte merveilleux de l'Évangile où nous voyons deux hommes, Paul et Silas, des serviteurs de Dieu, eh bien, qui sont enchaînés, injustement placés en prison, qui ont été jugés d'une façon eh bien, tout à fait eh bien, expresse et qui ont été battus eh bien, de coups et qui néanmoins, vous avez remarqué cela, qui se réjouissent devant le Seigneur. Tout à l'heure, vous savez, c'est important quand on prépare la parole du Seigneur, eh bien, d'avoir un petit clin d'œil de Jésus pour dire, Seigneur, est-ce que c'est bien ça qu'il faut ? Et le premier chant que notre frère nous a fait chanter tout à l'heure, nous parlait de la joie. Vous vous souvenez ? Comment c'était, François ? Je me souviens plus. Je suis dans la joie, une joie immense. Hein ? Puis même, on a chanté, tu es ma vie et tu es ma joie. Moi, je retiens ça parce que ce matin, je vais vous parler de la joie du Seigneur. Alléluia. Et la joie, dans la Bible, elle est bien présente. L'Écriture nous dit, Néhémie 8:10, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Philippiens 4:4, le 4:4 de l'Évangile. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Est un bon remède. Alléluia. Eh oui. Un cœur joyeux est un bon remède. Psaume 100, verset 2. Je vais vous dire ce psaume, ce verset. Alors, servez l'Éternel, Patrick. Servez l'Éternel avec joie. Alléluia. Donc, on s'aperçoit que la joie, eh bien, elle fait partie de la vie chrétienne. Et ici, dans le cadre de ces, de leur service, je le répète, ces hommes qui sont en prison se mettent à louer le Seigneur. Ils prient, ils chantent. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de colère. Mais il y a des louanges qui montent vers le Seigneur et il y a une joie surprenante, tout à fait saisissante. Et on pourrait se dire, mais ces gens-là, quand même un peu, ils planent. Ce sont des inconscients, ce sont des rêveurs. Leurs pieds ne touchent pas sol. Ils ont absorbé quelque chose. Hein, pour être, eh bien, lorsqu'on lit la suite de ce texte, on s'aperçoit que Paul est tout à fait lucide sur l'injustice dont il est victime. Et d'ailleurs, il va faire valoir quelques instants plus tard, eh bien, ses droits en disant que, eh bien, c'est un Romain, il est citoyen romain, que il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de le traiter ainsi. Et si vous lisez, eh bien, attentivement, dira ceci, après nous avoir battus de bâtons publiquement, sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison, et puis maintenant on nous dit qu'il faut sortir secrètement, on dit, ça ne va pas se passer comme ça, il faut que les magistrats viennent en personne vers nous pour nous expliquer la chose, et on s'aperçoit donc que c'est un homme très lucide, l'apôtre Paul, mais cependant, une puissance lui inspire, et peut-être que le Seigneur a-t-il besoin de parler à quelqu'un ? Une puissance lui inspire. Ne te mets pas en colère. Ne sois pas rempli d'amertume. Ne te plains pas, mais au contraire, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Et je voudrais vous dire ceci, cette joie, on a bien compris, mes frères et sœurs, ensemble, que cette joie, elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas humaine, parce que s'il regarde eh bien, à ce qu'il traverse, il y a de quoi avoir toutes sortes de réactions possibles et imaginables. Mais cette réaction et cette joie, eh bien, qu'il va exprimer, mais elle vient du Saint-Esprit. Je suis dans la joie, une joie immense, parce que Jésus m'a sauvé. Alléluia. Et la semaine dernière, nous parlions du fruit de l'Esprit, de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et ce fruit, on va le voir encore dans un instant, c'est l'amour. Et l'amour se décline sur eh bien, plusieurs facettes, et notamment la joie. Alléluia. L'Écriture insiste en disant ceci, « Soyez toujours joyeux. » C'est bien plus qu'une émotion. C'est une joie qui vient d'en haut. Et vous savez, un jour, vous connaissez peut-être ce réformateur Martin Luther. Il a combattu le bon combat de la foi de cet homme-là. Alors, certainement, tout n'était pas parfait. C'est un homme qui sortait du Moyen-Âge, mais il découvre la Bible. Il y a encore des choses, des lacunes, mais enfin, il a découvert la foi en Jésus-Christ. Et les historiens et même ses écrits nous montrent que parfois, eh bien, il était habité par une profonde tristesse. Il faut comprendre que quand même, cet homme, eh bien, ça luttait contre tout un système religieux catholique. Lui, le petit prêtre, le petit moine, là, comme ça, anonyme, d'un seul coup, c'est le pape qui est son ennemi, ce sont des armées, etc. Il y a de quoi, quand même, je ne sais pas pour vous, mais avoir les guiboles qui tremblent, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et tandis qu'il était dans une vague de peine, de tristesse, il voit sa femme, parce que quand même, il a même réhabilité la chose, c'est qu'un homme de Dieu, il a le droit de se marier. Que le célibat des prêtres, ça n'existe pas dans la Bible. Même, il n'y a pas de prêtre. On est au Seigneur. On sert le Seigneur. D'ailleurs, petite parenthèse, le pasteur, ce n'est pas le médiateur entre Dieu et les hommes. Le médiateur, c'est Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de terme religieux explicite pour définir un clergé dans le Nouveau Testament. Ça, c'est l'Ancienne Alliance qui annonce Jésus. Mais notre souverain sacrificateur, notre souverain prêtre, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Il est dans l'abattement et donc sa femme, il s'est marié. Sa femme vient le voir un moment et elle est habillée en noir. Voit son mari dans une tristesse. Vous voyez, les femmes de pasteur, elles sont bien quand même aussi. Et elle s'habille en noir, mais alors habit de deuil. Et Martin Luther la regarde et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est mort? Je ne suis pas au courant et il s'afflige. Oui, mais je veux te dire une chose, c'est que Jésus-Christ est mort. Alors là, ça le fait réagir. Oui, bien sûr, il est mort. Mais il est ressuscité. Alléluia. Une joie immense. Amen. Et nous avons besoin, eh bien, de comprendre tout cela. La joie du salut qui est en Christ. Eh bien, cette joie, eh bien, qui est par le Saint-Esprit. Une joie qui se retrouve même en prison. Une joie qui se communique. Alléluia. Tout d'abord, eh bien, cette joie du salut. Le fruit de l'Esprit, ça a été chanté, ça a été apporté ce matin. C'est l'amour. Dieu est amour. Alléluia. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et l'amour, c'est que Dieu a tellement donné, nous a tellement aimé, qu'il a donné son Fils unique. Amen. Et nous sommes dans cette joie merveilleuse parce que nous nous avons aimés de Dieu. Amen. Alléluia. Alors que nous n'étions pas aimables. Vous savez, il y a tellement de gens qui traînent, eh bien, des poids dans leur cœur en disant, mais je ne suis pas digne d'être aimé. Parce que je suis trop ceci, je suis trop cela, j'ai un passé trop compliqué, j'ai pas assez d'argent, alors mettez ça de côté, j'ai un nez trop grand. C'est une pièce de théâtre ça, hein, hein, voilà, quelqu'un qui s'appelait Cyrano, qui faisait des complexes parce qu'on pouvait pas l'aimer à cause de la taille de son nez, voyez, voilà. Mais je voudrais vous dire, si, même si t'as un nez qui est un peu bizarre, c'est pas grave, le Seigneur il t'aime quand même. Alléluia. Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Et dans ce texte de l'Écriture, nous voyons, eh bien, que le message de l'Évangile dans cet acte 16, il est apporté à une démoniaque, il est apporté à une marchande de pourpre, eh bien, qui se nomme Lydie, il est apporté à un geôlier, il est apporté à une famille, sans compter, eh bien, tous les textes de l'Évangile, des lépreux, des prostituées, des gens de mauvaise vie, mais aussi des religieux, mais aussi, eh bien, des hommes qui ont une démarche honnête, et tous ensemble, ils découvrent un message infiniment joyeux et positif, Dieu même, alléluia, alléluia. Et je voudrais te dire ceci, eh bien, le message de l'Évangile, c'est une personne vivante, c'est Jésus-Christ, et Dieu t'aime, alléluia. Et il est venu pour te sauver et t'apporter cet amour, alléluia. Les anges diront, Luc chapitre 2 verset 11, je vous annonce une bonne nouvelle et il vous est né un sauveur. Ce sera le sujet d'une grande joie. Alléluia. Et je voudrais que dans ton cœur, eh bien, tu puisses repasser ces choses et que tu puisses dire, mais cette joie, eh bien, je la veux. On va voir dans un instant que il y a des choses qui, quand c'est naturel, ça vient naturellement. Quand c'est spirituel, ça vient spirituellement. Quand c'est naturel, tu sèmes quelque chose, et naturellement, eh bien, il va pousser une carotte, si tu as... Enfin, une carotte, vous me comprenez, hein, vous voyez, je ne suis pas tellement dans les potagers, mais voilà, vous semez, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est la loi naturelle. Mais spirituellement, pour récolter, il faut aussi semer quant à l'esprit. Et on va le voir dans un instant. Mais cette joie, en réalité, cette joie qui vient d'en haut, cette joie de Dieu, cette joie qui est spirituelle, nous le voyons, c'est une joie qui montre une chose, qui définit, qui exprime quelque chose. Cette joie, elle définit l'amour de Dieu qui triomphe en tout lieu. Vous savez, quand... il y a quelques temps, il y a quelques mois, quelques années, deux ans, je crois, hein, un an et demi, ici à Montpellier, on était là, je ne me souviens plus du jour, mais je crois que c'était un dimanche soir, il y a eu un certain match de foot au mois de juillet. Il y avait un match de foot qui se passait en Russie, ça vous dit quelque chose? Non? Si? Une finale, un mondial. Oh, oh, Daddy, oh. Pas le foot, pitié. Eh oui, et puis... il y a eu une victoire, hein, Monzon, tu confirmes? Voilà, Monzon, lui, il dit oui. Voilà. Il faudra que tu parles à Aude un peu. Voilà. Mais, il y a eu une victoire. Et la victoire de notre équipe nationale a suscité dans les rues de cette ville, de Montpellier, une ferveur et une joie immense. Enfin, ce n'est pas le même type de joie. Hein. Je me souviens, avec les enfants, on a pris la Clio et... On a fait un petit tour. Alors les gens, ils étaient peinturés, Voilà, ouais, vas-y, klaxonne, c'est bon, on a gagné. Voilà. Et quoi? La joie, elle manifeste une chose tout à fait réelle. La joie, elle manifeste la victoire. Et si des hommes et des femmes sont capables de se réjouir parce que leur équipe de foot, eh bien, réussit à mettre le ballon au fond des cages, à combien plus forte raison nous devons-nous être joyeux de la victoire de Jésus-Christ? Alléluia! Et dire, mais je ne veux pas me laisser emporter par ce vent de tristesse, de panique du monde, le coronavirus ou je ne sais quoi, mais je veux être joyeux de la joie du Seigneur. Alléluia! Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui va klaxonner à tout va, etc. Eh bien, dans les rues, on va me prendre pour quelqu'un qui est... Mais quand même, Jésus a vaincu la mort, amen! Il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il a donné sa vie, il a vaincu le monde. Et mes frères et sœurs, dans tout ce texte, malgré les épreuves, on s'aperçoit que Dieu ne cesse pas de sauver des hommes et des femmes, alléluia! Il est toujours à l'œuvre, amen! Et je voudrais te dire, arrête, eh bien, la plainte. Arrête la colère, arrête la tristesse, réjouis-toi, Jésus est vivant, alléluia. Et on comprend que cette joie, eh bien, elle vient d'en haut. Vous savez, il y a, je ne sais pas si j'en ai parlé ici, peut-être, excusez-moi si je fais une répétition, mon arrière-grand-mère est décédée il y a quelques années de cela, il y a quelques années, on vieillit, hein, ça fait bien 30 ans, et à Avignon, hospice, etc. Et dans les derniers jours de sa vie, elle a découvert des choses qu'elle n'avait jamais compris sur Jésus. Alors elle s'était fait baptiser en Corse, elle avait suivi bien son fils, mon grand-père et ma grand-mère dans les eaux du baptême. Elle avait accepté Jésus, mais il lui manquait cette relation, enfin, quelque chose de plus frais. Et dans les derniers jours de sa vie, dans cet hospice, je me souviens, j'étais enfant, son visage s'est mis à rayonner. C'est indéfinissable. Je garde ce souvenir d'une femme avec de l'âge, presque 100 ans, avec un sourire qui venait d'en haut. Et on devait lui faire une dernière opération qui devait l'amputer, et nous on a prié, je me souviens, disant, Seigneur, écoute, que ta volonté soit faite, mais le mieux pour elle, c'est pas l'hospice, c'est l'amputation sur un lit d'hôpital. Il y a mieux à vivre quand même. Alléluia. Et le Seigneur l'a repris. Et bien, je voudrais vous dire ceci, et j'en ai encore la mémoire, c'est que notre cœur n'a pas été triste, mais notre cœur a été dans la joie. Seigneur, elle est mieux avec toi. Ici, ben, bien sûr, il peut y avoir momentanément une tristesse de la séparation, parce que on sait que sur cette terre, on se reverra plus, mais cette joie, faisons attention aussi lorsque nous parlons, je parle à des chrétiens ici, et ayons cette sagesse de respecter la tristesse de ceux qui n'ont pas cette espérance, parce qu'ils ne nous comprendraient pas, diront, mais vous êtes dur de cœur, ou bien si vous vous réjouissez de ce que quelqu'un est mort. Mais nous, ce n'est pas qu'on se réjouit que quelqu'un est mort, on se réjouit de la victoire de Jésus dans cette personne qui maintenant est avec le Seigneur. Amen. C'est-à-dire qu'à un moment, cette victoire doit avoir un impact concret dans nos vies et dans notre quotidien. Et je voudrais vous dire ceci, et je le disais tout à l'heure, mais cette joie, elle est spirituelle. Elle est la conséquence d'une vie conduite par le Saint-Esprit. Et comprenons que si nos vies ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, eh bien, nous risquons de passer à côté de ce que le Seigneur veut nous faire vivre. Parfois, je remarque dans ma vie, comme vous, il peut y avoir une irritation, il peut y avoir un élan, une réaction selon la chair. Ça vous arrive jamais. À la Mosson, j'ai vu que non, il y a jamais de réaction. Le peuple de Dieu est égal. Ouais. Il y a toujours une modération. Hein, et surtout à la paillade là. Jamais un mot plus haut que l'autre. Hein, c'est voilà. Hein. Et je dis aux frères, eh bien, qui viennent de Paris là, voilà, vous allez découvrir. Vous ferez vos expériences. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais quand nos réactions commencent à nous inquiéter, peut-être qu'il faut vite comprendre une chose. J'ai besoin de revenir vers le Seigneur. N'essaie pas de changer. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Ça n'a rien à voir. Tes réactions sont les conséquences de la source qui est en toi. Et si la source elle est sèche, tu vas être aride, sec, abrasif. Mais si tu viens à celui qui est la source, si tu reviens, eh bien, dans cette communion avec le Seigneur, mais cette paix, cette joie, cet amour, ça va revenir tout seul. Comprenez ? C'est le fruit de l'Esprit, et l'Écriture nous dit ici que, eh bien, ces hommes ont été conduits par le Saint-Esprit. Accepter d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est accepter que le Seigneur puisse nous dire non. On n'aime pas que le Seigneur nous dise non. Mais écoutez, dans Actes 16 et au verset 6, il nous est dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut, lui fit cette prière « Passe en Macédoine, secours-nous » et après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et nous comprenons une chose, c'est que ces hommes, avant d'éprouver la joie du Seigneur, ils ont dû certainement éprouver de la frustration. Je me mets à la place de l'apôtre Paul. C'est un homme qui brûle pour les âmes. Il a rencontré le Seigneur, mais je ne peux pas faire autre chose que témoigner. Seigneur, tu m'as appelé, je suis un missionnaire et je veux aller de par le monde. Mais voici que les portes se ferment les unes devant les autres, là, et l'Esprit de Jésus ne lui permet pas. Et là, on remarque qu'avant d'être un évangéliste, avant d'être un apôtre, Paul est un disciple de Jésus. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la joie première d'un disciple du Seigneur, c'est d'obéir à son maître. C'est pas d'exprimer forcément toujours ce que Dieu a mis dans son cœur, mais c'est de l'exprimer au bon moment, mais d'obéir au Seigneur. Et on s'aperçoit que dans la vie de l'apôtre Paul, il y a une marque principale qui doit être centrale dans notre vie, c'est la marque de la croix. Je suis mort à mes pensées, à mes projets. J'ai été crucifié à la croix. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et il peut y avoir certaines frustrations. On a parfois des raccourcis faciles concernant la bénédiction de Dieu en disant qu'un chrétien ne doit jamais être frustré. Comment ? Un chrétien ne peut jamais. On va y aller en prison tout à l'heure. On va y aller. Pensez à ses frères et ses sœurs qui, pour leur foi, à cause de leur foi, ont perdu leur mari, leur femme, leurs enfants, devant leurs yeux. Pensez à tout cela. Et on comprend que, avant d'expérimenter cette joie spirituelle, l'apôtre Paul a renoncé à une joie facile, une joie naturelle, voire même une joie charnelle. Je suis appelé, je suis apôtre, je sais ce qu'il faut dire, allez, j'y vais. Mais je voudrais vous dire ceci, mes frères et sœurs. S'il n'y a pas de direction du Saint-Esprit dans nos vies, si l'apôtre n'avait pas été conduit par le Saint-Esprit, malgré l'appel, il aurait été dans une... Je sais pas ce que je vais dire. Il aurait été dans une situation de désobéissance, voire même une situation de péché. Tiens, on peut parler de Jésus, et parce que on désobéit à la voix de l'Esprit, être quand même dans une situation de péché. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dira ceci, mais n'attristez pas le Saint-Esprit. Eh bien oui, parce que si je désobéis au Seigneur et que je ne fais pas sa volonté, je me mets à l'attrister, et forcément, la joie ne va pas être dans ma vie. Il y a des hommes, je pense notamment, on n'a pas le temps de lire, mais le roi Josias, qui veut voir la victoire et qui va au-devant du roi, d'un roi égyptien, d'un pharaon, et Dieu ne lui a rien demandé. J'y vais, voilà, Dieu est avec moi. Et c'est vrai, il vivait des belles choses. Il avait retrouvé le livre de la loi, Dieu lui avait fait des promesses, etc., etc. Mais Dieu ne lui avait rien dit de combattre contre cet Égyptien. Pourtant, c'était des ennemis. Eh bien, il va perdre inutilement la vie. Il va être enterré glorieusement, parce que c'était un bon roi. Mais il a perdu un combat qu'il n'aurait jamais dû mener. Mes frères et sœurs, c'est important d'être conduit par le Saint-Esprit. Une certaine femme, là encore, on n'a pas le temps de le lire, dont le nom signifiait douceur, Noémie, va dire « Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, amertume. » Et elle va dire « C'est Dieu qui m'a rendu amère. » C'est pas Dieu, elle va le comprendre. Noémie, c'est pas Dieu. Même il va rétablir la douceur, il va ramener la bénédiction, la joie au travers de la naissance d'un enfant qui va lui être donné par cette belle fille qui s'appelle Ruth. Vous connaissez tout ce texte? Et elle va redevenir Noémie, mais parce que elle s'est écartée des voies du Seigneur. Elle n'a jamais voulu abandonner Dieu, mais elle a pris d'autres voies. Et elle a été rendue amère. Et je veux vraiment que nous puissions comprendre, c'est que la joie que le Seigneur veut que nous expérimentions, elle est toujours basée sur le Seigneur et sur le sacrifice. Il y a un paradoxe quand même. Acte 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai un beau-père qui est boxeur. Il m'a dit ça, c'est la devise du boxeur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors bon, voilà. Vous en faites ce que vous voulez maintenant, hein. Voilà. Mais on comprend une chose. C'est que la véritable joie dans nos vies, c'est que j'ai tout laissé à Christ. Amen. Mais quand on aime, c'est facile quand on aime quelqu'un. Quand on se marie, on veut tout partager. Ses pensées, on veut partager ses projets, on veut tout matériellement, spirituellement, affectivement, tout est mis en commun. Alléluia. Et c'est ça. Quand l'un des deux retient quelque chose, c'est plus l'amour, c'est plus la joie. Mais mes frères et sœurs, on veut s'offrir. Et on comprend une chose, donc, cette joie, eh bien, elle peut même se trouver en prison. J'ai entendu, François, je te l'enverrai, un slam ou un rap de... Comment il s'appelle, Enoch? Mick Haywood. Vous irez sur YouTube. Un chrétien comme ça, qui fait des textes poésie urbaine, celui qui aime le français, ben là, on l'a entendu, hein, Véronique, hein, voilà, hein, et il dit, mais j'ai bien ri parce que ils ont, ils ont réduit ta bénédiction à la prospérité. Et dans ce texte, il parle, mais alors Paul, lorsqu'il était en prison, il n'était pas dans le plan de Dieu, Dieu était en colère contre lui. Il y a eu un don spirituel quand même ce matin, non? Ça ne nous a pas parlé de... chapitre 1er de l'épître de Pierre, de la fournaise, non, l'épreuve de notre foi, ça n'a pas été dit, ça, on l'a pas chanté même, oui, c'est-à-dire que cette joie qui vient du Saint-Esprit, eh bien, elle doit résister aux pressions et elle doit résister aux prisons. La joie que Dieu nous donne, rappelons-le, elle est basée sur la victoire de Christ. Il est le vainqueur. Amen. Merci Seigneur. Par le Saint-Esprit, tu veux que ta victoire soit non seulement à l'extérieur de ma vie, mais à l'intérieur. Obéissance. Amen. Mais également, cette joie, elle se retrouve également dans des situations, eh bien, difficiles comme celle de Paul et de Silas en prison. Et c'est là que cette joie doit se manifester. Parce que je voudrais vous dire, mon frère, ma sœur, que si la joie du Seigneur ne se retrouve que dans un lieu comme celui-ci, des incroyants diront, mais nous, on en fait tout autant. On a hâte que ce soir, quand on étudie le jeudi soir, pour aller tous en boîte, et là, on va se vider la tête, on va tout oublier. J'ai hâte qu'il y ait le concert du groupe de rock, machin, etc. Je vais m'éclater, c'est formidable. Voilà. Mais si notre joie... On a raison de se réjouir, parce qu'on se réjouit d'une vraie joie. Alléluia, de la joie du salut. Amen, dans la vérité. Mais si ça correspond uniquement à ces moments-là, qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Mais ici, il faut que cette joie, eh bien, elle se manifeste alors qu'elle ne devrait pas exister. Et c'est vrai que nous avons vu des frères et des sœurs passer par la maladie, par toutes sortes d'épreuves, et manifester un enthousiasme, une joie, eh bien, qui était là dans leur vie. Alors les prisons, elles peuvent être nombreuses, ça peut être le célibat, ça peut être la maladie, ça peut être une situation familiale extrêmement compliquée, des problèmes de travail, t'aimerais bien changer de boulot parce que l'ambiance, elle est compliquée. Mais quand même, tu te dis que si tu démissionnes, bah, ça va être dur quand même de trouver du boulot à côté. Donc, il faut quand même que tu restes là. Et le Seigneur te dit, reste, prends position, alléluia. Merci. Mais néanmoins, il y a des choses qui sont compliquées. Et le fruit de l'esprit, il doit pouvoir se manifester dans un lieu où tout est sec et aride. Et la joie du Seigneur doit se manifester alors même qu'il devrait, alors que normalement l'amertume, la colère, l'abandon, la souffrance devraient s'exprimer. Et là on voit des hommes, Paul et Silas, en prison, qui sont en train de prier et de chanter les louanges du Seigneur. Amen. Alléluia. Et c'est l'expression de cette joie, et je veux revenir à ce que je disais, elle est aussi la conséquence d'une volonté active. Avant de chanter les louanges du Seigneur, le texte précise bien qu'ils ont prié. On a eu encore un don spirituel qui nous a parlé de l'importance de la prière. La prière, cette communion avec Dieu. Ce matin, alors j'avais préparé ces choses, hein, voilà. Et ce matin, peut-être vous l'avez lu, est-ce que vous lisez ce petit feuillet du Trésor quotidien, hein? Ben, vous avez remarqué qu'il parle de la prière. La guerre me fait oui. Hein, voilà. Hein. Et oui, ça parlait de la prière. Et la prière, c'est revenir à la communion. Le chant, la louange, est l'expression de mon amour avec le Seigneur, mais que j'ai trouvé dans un tête-à-tête avec lui, dans une relation avec lui. Je ne prie pas simplement pour demander au Seigneur des choses. Prier, ça veut dire je suis dans ta présence. Amen. Et je peux être dans ta présence, Père, parce que le voile a été déchiré. Ton Fils a effacé ma faute. Le voile est déchiré, le chemin est ouvert. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et nous qui sommes des pentecôtistes, nous prions dans l'action du Saint-Esprit. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu es là, Seigneur. Amen. Et tu me remplis, tu me renouvelles. Amen. Et je suis persuadé d'une chose. Alors ça, c'est, alors je suis persuadé, bon, c'est, disons que c'est mon interprétation personnelle. Je me suis dit, mais comment ça se fait quand même qu'il prie, il chante les louanges du Seigneur. Mais qu'est-ce que tu leur as dit, Seigneur, pour que ils continuent à se réjouir même en prison? Qu'est-ce que tu leur as dit? Ça vous intéresse ou pas? Regardez. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as? Eh bien, souvenez-vous de la vision de l'apôtre Paul. Vous vous souvenez de cela? Un Macédonien lui apparaît. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Passe en Macédoine, secours-nous. Le mot-clé dans ce texte, c'est le mot secourir. Tout le monde est secouru. Paul, il est secouru pour savoir où il faut aller. Il va aller à Philippe. Lydie, elle est secourue malgré sa vie de prière, etc. Elle connaissait pas le Seigneur et la marchande de pourpre va découvrir Christ. La pythonisse va être secourue en étant libérée de son démon. Le geôlier va être secouru lui également. Mais celui qui va être secouru encore une nouvelle fois, c'est les deux là, c'est Paul et Silas. Et moi je suis, c'est ma pensée, peut-être que vous, voilà, peut-être que dans le ciel on, mais Paul nous dira non, c'est pas ça que le Seigneur m'a dit. Mais enfin, moi, je crois. Mais passe en Macédoine, secours-nous. Mais Seigneur, on n'a pas pu parler de toi dans toute la Macédoine et dans tout le monde auquel tu nous as adressé l'appel. Il y a une porte qui s'est ouverte là. Mais alors, c'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible que tu nous laisses en prison. C'est pas possible. On ne sait pas ce que tu vas faire, mais tu vas faire une chose, c'est que tu vas nous libérer. Cette porte va s'ouvrir et alors nous, en attendant que ça se fasse, que ça vienne tôt, que ça vienne tard, nous, on va te louer et on va se réjouir. Jésus, tu es vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça change la donne, ça, dans nos vies. Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit, mais un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Tu ne sais pas quand le Seigneur va agir, mais le Seigneur va agir. Mais alors pour eux, ça agit extraordinairement, rapidement, et le secours s'est manifesté, et un tremblement de terre miraculeux. Vous savez, un tremblement de terre, généralement, ça fait des morts et des milliers de morts. Là, un tremblement de terre, écoutez, il est formidable, ce tremblement de terre. Il ouvre toutes les portes de la prison, les chaînes tombent, etc., et tout le monde est libre. Mais gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur. Ça va réveiller quand même, hein, le geôlier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir un tremblement de terre dans sa vie. Parfois, il y a des choses, tout s'écroule, tout s'ébranle, afin que tu comprennes que tu n'es comme une plante, l'herbe sèche, la fleur tombe et le lieu où elle était ne la reconnaît plus. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia, ton Dieu veut entrer dans ta vie. Et nous sommes là et nous comprenons que, eh bien, cet homme, et Paul et Silas, ces deux hommes, ont d'abord volontairement prié. volontairement chercher la face du Christ, la face de Jésus, pour avoir de lui cette joie. On ne veut pas tomber dans la fiction. Et en préparant ces moments, je me suis retourné vers un psaume, psaume de David. S'il y a un homme dans la Bible qui a souffert, c'est bien David, vous connaissez. Et alors, il nous est dit ici, au psaume 42, au psaume 42, et au verset 10, il est écrit, alors, son âme est abattue au-dedans de moi, dit-il au verset 7, et il dit à Dieu, mon rocher, verset 10, mais pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Rien ne va, je suis abattu, je suis attaqué dans mes pensées. C'est ça que ça veut dire. Vous n'arrivez jamais d'être attaqué dans vos pensées? Vous aimeriez bien penser à autre chose, mais vous voyez du noir. Hein, c'est le fog, comme diraient les Anglais. Et mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, au travail, à la maison, au stand biblique, où est ton Dieu? Mais voilà, tout va de travers, il est où ton Dieu? Où est ton Dieu? Et là, tu te sens prisonnier? Réponse, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai. Encore, il est mon salut et il est mon Dieu. Et remarquez le verset, le chapitre 43, qui est voilà, qui est un peu la suite. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Et si ces hommes de l'ancienne alliance, avec ce qui leur était communiqué, étaient capables de parler à leur âme pour leur imprégner, eh bien, une direction par le Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous qui sommes nés de nouveau, alléluia, qui avons rencontré le Seigneur, le Christ, le Fils de Dieu, amen. Un combat pour rester joyeux, non pas une méthode couée, mais une réalité de la vie des enfants du Seigneur, de celles et ceux qui aiment Dieu, de celles et ceux qui ont compris, mais la victoire, elle est assurée. Seigneur, tu es vainqueur. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit, mais comme je le répète, Jésus a vaincu le péché, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il a la droite de la majesté divine, et c'est lui qui aura le dernier mot, et c'est lui qui règne. Amen. Amen. Et parce qu'ils sont restés dans cette situation de foi et de joie, le Seigneur est intervenu. Amen. Il y a quelque temps en arrière, enfin dans une autre ville, nous étions en équipe pastorale, et parmi nous, il y avait un frère qui commençait à entrer dans le ministère, et c'était pas sa place, en fait. Vous savez, quand on n'est pas à notre place, ça marche pas, hein. Ce garçon, il faisait du bien dans l'église. On avait un accueil, voilà, et il faisait vraiment du bien. Parler aux gens, c'était un garçon qui priait, qui aimait les gens, et ça se passait bien. Et puis, il lui dit, mais toi, tu as reçu l'appel pour être pasteur. Pas du tout. Et ça a été la cata. Et il a commencé à porter une espèce de langueur, une espèce de tristesse. Et je me souviens, il s'appelait Thomas. Et on reçoit un pasteur qui n'est pas... qui ne connaissait rien, qui ne connaissait même pas son nom. Et il se met à prêcher sur la résurrection du Seigneur et sur Thomas, vous savez. Sur Thomas... Il dit qu'il n'est pas là lorsque Jésus est ressuscité, hein, apparaît à ses disciples, et qui ne croit pas. Et ce frère lui dit ceci, il est en train de prêcher, et il dit ceci, mais souris Thomas, Jésus est ressuscité. Et moi, je l'avais juste à côté de moi, mon Thomas. Je disais, mais Seigneur, tu es en train de lui parler. Il était abattu, triste, le pauvre. Mais le Seigneur voulait dire, allez, arrête. Il n'y a pas qu'à être pasteur dans la vie, il y a plein d'autres choses à faire, gloire à Dieu, il faut répondre à l'appel de Dieu. Mais souris, alléluia, Jésus est vivant, amen, réjouis-toi, alléluia. D'autant que cette joie, elle va être communiquée. Vous savez, je crois que nous aussi, on a besoin de comprendre que le Seigneur veut nous utiliser pour gagner des âmes. Je n'ai pas parlé de ça, mais peut-être que j'aurais dû le faire. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La joie du Seigneur, c'est aussi quand des hommes et des femmes passent de la mort à la vie. Ça devrait être notre joie, ça. Je voudrais simplement laisser cela sur votre cœur. Est-ce qu'il y a dans vos prières, dans vos intercessions, de la place pour une personne qui ne connaît pas Jésus. Alors je prie pour moi, pour mon travail, pour ma famille, pour l'église. Mais est-ce qu'il y a une personne, le nom d'une personne qui est loin de Dieu? Vous allez voir, si vous la priez pour elle, témoignez, que vous l'amenez à Jésus, il va y avoir une joie dans votre cœur immense. Seigneur, tu m'as employé pour que cette personne, elle passe de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Et vous allez l'aimer d'un amour particulier. Parce que Dieu vous a employé pour cela. Alléluia. Alors, et là, pourquoi je dis ça? C'est parce que ben, dans cette prison, il va y avoir vraiment un miracle avec ce geôlier qui va accepter eh bien, le Seigneur Jésus dans son cœur, l'évangélisation en prison. Christophe, hein, l'évangélisation en prison et cet homme eh bien va se tourner vers le Seigneur, va se repentir, va accepter le salut, il va s'engager dans les eaux du baptême, tout ça en une nuit, et toute la famille se convertit aussi. Gloire à Dieu, hein. C'est quand même formidable ce qui se passe, hein. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Très simplement, il se réjouit d'avoir cru dans le Seigneur, lui et sa famille. Je pense que c'était plus fort que ça. Ils ont sorti, je ne sais pas quoi, le ragoût là, ou ils ont fait à manger. Gloire à Dieu, alléluia! Est-ce qu'on est capable encore de se réjouir devant le Seigneur? Quelque temps en arrière, je suis allé au camp des Roms. Mon fils m'a dit, j'ai mangé un kebab à côté, je voyais des rats qui passaient. Mais moi, je suis allé à ce camp de Roms, celle neuve là-bas, parce qu'on avait rencontré au stand des jeunes, un couple de jeunes roms. Il dit, mais il y a le grand-père là, il est aux urgences, nous aussi on croit dans le Seigneur, et puis moi je suis allé, il se trouvait que je faisais d'autres visites, j'ai pu aller voir, j'ai vu la famille, et on a prié, et ils m'ont dit, mais cet homme il aurait dû mourir, on a prié le Seigneur, et il a eu une attaque cardiaque, mais voilà, maintenant il est en soins intensifs, il est sorti d'affaires, gloire à Dieu, on veut se réjouir. Venez vous réjouir avec nous. Il dit, comment ça? Ben venez, ce soir, c'était juste avant la réunion, un mardi soir, venez, on a fait un repas pour le Seigneur. Un repas pour le Seigneur. Eh ben écoutez, j'y suis allé, la table, il commence à pleuvoir, hein, on a mangé un peu sous la pluie. Voilà, avec, on a mangé je sais pas quoi, des rôtis de porc. Mais enfin, bon, il n'y avait pas de couteau, pas de... Bon, c'est la première fois, il fallait découper comme ça. Mais enfin, voilà, j'ai pas vu les rats, voilà. Mais c'était le bidonville. Hein. Et le chef de famille, là, il dit, mais moi, je me suis converti en 2000, je sais plus combien, là. Et maintenant, j'appartiens au Seigneur. Alors, pauvreté. Mais on n'oublie pas de se réjouir devant Dieu. Parce que le Seigneur, il a sauvé le papy, amen. Bah, j'ai dit chapeau. Amen, gloire au Seigneur. Même dans un bidonville, Seigneur, tu agis, et que Dieu bénisse eh bien, ces hommes et ces femmes. Amen. Alors que le témoignage de ta vie puisse dire, mais cet homme, cette femme, il est joyeux. Il est plus joyeux que les supporters de l'équipe de France. Sa joie, elle est plus authentique, elle est plus vraie, parce que son sauveur est vivant. Il ne perd pas espoir, même lorsque la prison est là, la maladie, la mauvaise nouvelle, parce que ses yeux voient plus haut, plus grand, plus fort. Eh bien, c'est Jésus. Et même le Saint-Esprit est victorieux dans sa vie. Amen.